Reportage.
Reportage.
Culture.
Environnement.
Vie associative.
Éducation populaire.
Santé.
Développement local.
Démocratie.
Reportage.
Reportage.
Ben merci à tous, à toutes, même si on n'est pas en très grand nombre, d'avoir fait l'effort de venir en cette grosse chaleur du dimanche 28 juin 2026 pour ce deuxième Café Complice à l'Escalabière, si je ne m'abuse, co-organisé par le 101.7, donc l'espace de vie sociale du Haut-Diwa, porté par Radio Diwa, ce qui explique aussi que nous sommes face à des micros, que vous allez en avoir aussi entre les mains si vous voulez participer. C'est un café débat, donc ce n'est pas une conférence et après on ouvre la parole. N'hésitez pas à intervenir. Ismo à la technique est là pour vous passer les micros, pour nous dire aussi, nous faire des signes si on parle trop fort ou trop faible, trop faiblement. Et je vais vous présenter rapidement l'objet de la rencontre. Donc, d'une part, avec Amélie et le 101.7, il y a eu déjà il y a presque une année un premier contact qui a été pris avec nous cherchons des cafés associatifs pour organiser des événements et pouvoir rencontrer les villageois, les villageoises autour de sujets particuliers qui leur sont chers et qui sont chers à un peu à tous les habitants et toutes les habitantes du Diwa et du Haut-Diwa en particulier. Et après un premier rendez-vous qui avait été l'hiver dernier autour du thème comment avancer ensemble, je crois.
C'est ça.
Donc il y avait déjà l'idée du mouvement. Et là, nous sommes aujourd'hui autour du thème de la mobilité. La mobilité en ruralité, mais plus particulièrement dans notre ruralité, la ruralité du Haut-Diwa. On ira même plus précisément avec vous peut-être sur la mobilité entre la vallée de la Drôme et la vallée de l'Aigue, puisque nous sommes là juste après le col de Prémol sur cette départementale qui passe de l'une à l'autre. Un petit tour de table de présentation et puis après peut-être on vous tendra la parole pour savoir si vous avez des attentes ou exprimer des besoins autour de la mobilité pour qu'on puisse réagir et enrichir tout de suite le débat. À ma droite, Fleur, si tu veux te présenter.
Oui, bonjour. Moi, c'est Fleur. J'habite à Bellegarde. Et donc, je suis la fondatrice d'un collectif de covoiturage dont on parlera tout à l'heure, je pense. Voilà.
Donc moi, je ne me suis pas présenté, j'ai pas comme... Oui, c'est vrai, c'est un peu impoli. Stan, ou Stéphane Malafronte, qui, quand il ne fait pas ostéopathie à Châtillon, est animateur radio. Et là, donc, je suis en animation radiophonique pour le 101.7, à ma gauche.
Et donc, Thomas Préel, moi, je suis salarié de l'association Dromolib. Nous, on intervient à l'échelle du département pour développer une mobilité plus écologique, plus économique et plus pratique. Et sur le Diwa, on accompagne et on soutient donc l'EVS de Lucan Diwa dans ses démarches, qui est une structure référente, du coup, sur la mobilité. Voilà.
Et Mimi, ou Amélie, qui fait partie de l'équipage de l'Escalabière. Voilà.
Est-ce que déjà vous voulez nous faire part vous de questions ou que vous avez précisément en étant des usagers de la mobilité locale, est-ce que vous avez des besoins, des attentes de notre rencontre qu'on puisse s'en nourrir?
Moi je suis Claire, donc j'habite à Bellegarde depuis 5 ans. Oui, moi je trouve que la mobilité ici, ça nous touche, ça nous concerne. Et moi, Fleur a essayé de m'initier et de me mettre sur le groupe là, de covoiturage. mais j'y comprends rien, j'y arrive pas. Et en tout cas, moi, c'est une bouche à oreille. Dès que je peux, je remplis la voiture avec Jean quand on va au marché, quand on peut, on remplit, quoi.
Bon, moi, c'est Nadine et j'habite depuis un an et demi à Bellegarde. J'étais céramiste à Romans avant. Et moi, la question que je veux poser tout de suite, ce n'est pas une question, c'est un constat. C'est que si on est ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des défaillances de l'État. Et il faut le situer. C'est-à-dire qu'on est isolé. On n'est pas le seul village, on est plein de villages, et puis dans toute la France. Et les services publics, ils se cassent la figure. Moi, je le répéterai à chaque fois qu'il faut le redire. Ils sont inexistants, enfin quasi, au niveau des transports, entre autres. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis là. Et moi je prends facilement, par exemple, je sais qu'un des moyens de se déplacer, c'est le stop ici. Et je trouve génial. Moi je refuse jamais de prendre quelqu'un en stop.
Oui, bonjour. Donc moi, Cécilia, j'habite à La Motte. Et avec d'autres personnes, on avait discuté justement à la mobilité dans la région et on avait vu un petit peu qu'il y avait des dispositifs dans certaines communes avec des véhicules partagés. Et donc c'est la commune qui, bien sûr, qui finance. Dans nos régions, quand on n'a pas de véhicule, malheureusement, on ne va pas bien loin, à part que ce soit quelqu'un qui nous amène. Et peut-être qu'un véhicule partagé entre les habitants, ça permettrait à des personnes qui s'en servent très peu de pouvoir se déplacer malgré tout en autonomie. Parce que c'est bien le covoiturage, mais ça limite quand même. Il faut forcément trouver quelqu'un qui nous amène. Donc voilà, donc ce serait un sujet, je pense, de l'autopartage. Alors je ne sais pas si dans le DIY, il y a des communes qui ont déjà des véhicules en autopartage, mais voilà.
Oui. Bonjour, moi c'est Patricia, j'habite La Motte depuis très peu de temps et je viens d'endroits où il y avait pas mal où la mobilité était aisée. J'ai vécu sur Paris, j'ai vécu pas loin de Bourg-en-Bresse, donc j'ai jamais rencontré vraiment de problème, sauf que j'étais à 30 km de Bourg-en-Bresse et là il fallait absolument une voiture pour aller faire ses courses. Et pour les personnes âgées c'était compliqué. Ici je trouve que quand on n'a pas de voiture ou pas de vélo, on est très limité. Je fais comme la dame, j'essaye dans la mesure du possible de prendre les gens en stop. Je sais qu'il y a des besoins, des demandes sur La Motte. C'est vrai que quand quelqu'un part de La Motte ou a besoin qu'un enfant soit remonté, comme on est un petit village, tout le monde se connaît, est-ce que quelqu'un sera à Nyons à telle heure pour remonter mon enfant à La Motte? Bon, il y a système de choses non vraiment figé, mais ça marche un peu comme ça. Et puis quand il y a des besoins, ça passe sur Facebook. Mais je ne sais pas s'il y a autre chose. Je pense qu'il y avait une initiative qui a été lancée, mais qui n'avait pas été, n'avait pas perduré.
D'autres interventions?
En fait, vous, vos demandes à La Motte, c'est pas du tout les mêmes que nous, parce que vous êtes beaucoup plus ce côté Nyon, enfin. Quand vous déplacez, vous n'allez pas à Die, vous allez à Nyons.
Oui, puis il y en a ici qui vont aussi côté Nyons. Ça, des fois, ça arrive.
Ah ouais.
C'est plus fréquent que les gens. Il y a Die et de Bellegarde, mais il y a aussi dans l'autre sens, et c'est pareil à La Motte. Il y a des gens qui vont à Die aussi.
Justement, en parlant de ça, donc La Motte-Chalancon, c'est quand même le dernier village qui fait partie du Diois. Donc nous sommes rattachés au Diois et pourtant nos transports en commun, c'est uniquement sur Nyons. On n'a rien qui va sur Die. Donc en fait, on fait partie d'une région, le Diois, mais en fait, on est rattaché au niveau mobilité sur le Nyonsais. Et donc là, ça pose un petit souci parce qu'en fait, notre région administrative, c'est Die ou Cré. Par exemple, moi, demain, j'ai un rendez-vous à Pôle emploi à Cré. Et ben voilà, c'est vachement pratique, il n'y a pas du tout de transport. Par contre, ce serait à Nyons. Moi, ça ne me poserait pas de problème. Il y a le transport en commun. Donc voilà, c'est...
Super.
Et puis si vous aviez un transport qui partait de La Motte à Die, au moins, on en profiterait aussi à Bellegarde.
Je pense qu'on est, rentré de plein pied dans le sujet, dans le débat. Et je voulais voir avec Thomas quel est un peu le constat de l'existant, que ce soit sur les propositions de la région, du département, de l'intercommunalité, de la commune, en termes de transport, de mobilité.
Alors, évidemment, c'est un sujet. Quand on habite, par exemple, à Bellegarde, Le vrai sujet, c'est comment rejoindre la Motte ou Luc en Ivoire, puisqu'il y a quand même la ligne des 29, je crois, qui passe sur Luc dit, et de l'autre côté, c'est la ligne des 37. Voilà sur ce qui est ligne de bus. Il y a donc un transport scolaire qui passe le lundi et le vendredi. Donc ça, je le découvre aussi, hein, parce que c'est tout à l'heure les habitants qui m'apprenaient que le transport scolaire passait seulement le lundi et le vendredi. Et ensuite, il y a quand même le transport à la demande qui permet, donc c'est un transport mis en place par la région, qui permet de, c'est un service de rabattement vers les gares ou les lignes de bus, qui permet sous présentation d'un justificatif d'avoir un taxi qui est conventionné avec la région, qui vient nous chercher dans notre village ou nous ramener dans notre village. Donc par exemple, si vous avez un billet de train qui vous amène à Die, vous habitez Bellegarde en Ivoire, vous pouvez appeler ce transport, donc c'est pas la dernière minute, hein, faut l'appeler la veille, réserver, et vous payez un forfait au nombre de kilomètres, donc c'est 5,60 € en dessous de 30 km, de 30 à 60 km c'est une dizaine d'euros, et au-dessus, voyez, il y a un forfait supplémentaire. Donc voilà quelque chose qui existe dans ce sens-là, mais aussi si vous avez besoin de prendre le train par exemple à Die. Donc j'ai ramené les petits fascicules, c'est aussi un service qui existe à partir de la Motte Chalancon. Voilà, qui peut nous emmener à Mont-Laurent d'Ivoire. Je les laisserai à disposition après, même je peux les laisser à l'escalabière, en bois voir, voilà, ou vous le transmettre si vous voulez après. Sur le site de la région, tout est expliqué, il y a un numéro qui permet d'appeler. Donc voilà les dispositifs qui sont mis en place par les collectivités que je connais. Et après, c'est vrai que dans ces villages, l'enjeu, c'est comment les habitants arrivent à se structurer et s'organiser pour développer des services. On en a entendu parler de l'autopartage, de covoiturage ou de stop. Voilà.
On peut déjà parler, Fleur, de justement cette initiative que vous avez eue ou que tu as eue. Je ne sais pas si le collectif, tu peux nous le présenter.
Oui, alors du coup, c'est le collectif des voisins itinérants de la D61, qu'on dit en plus court Covid-61. Et du coup, c'est un collectif qui est né en fait du constat que on fait beaucoup de trajets en voiture pour se rendre un peu dans des endroits où il se passe un peu plus de choses qu'ici. Et c'est pas rare qu'on à la fin d'un trajet, on croise un voisin et qui est parti à la même heure quasiment et qui va au même endroit et qui voilà, que du coup on aurait pu avoir une seule voiture. Et puis aussi qu'il y a des personnes qui aussi n'ont pas de voiture et qui pourraient aussi profiter de ces trajets-là si on sait qu'ils existent, quoi. Et alors actuellement, il y a des initiatives un peu par village, on va dire, qui permettent qui font que les gens discutent entre eux ou ont des groupes de communication dans leur village où ils s'informent mutuellement de leur trajet. Mais je trouve que c'est intéressant d'élargir ça. Donc là, ce collectif, il est destiné à desservir tous les villages qui sont le long de la D61. Donc c'est la route qui va de Luc en Ivoire à Rémusat. Voilà, pour permettre un peu d'élargir l'offre de trajet, plus ou moins. Parce que voilà, si on est à Bellegarde, on peut aussi profiter du trajet de quelqu'un qui vient d'Establet, qui va à Die, par exemple.
Et il fonctionne comment, ce collectif ? Donc, si on veut pouvoir y participer, oui. Est-ce que c'est assez simple d'accès ?
Donc là, en fait, c'est un collectif qui a été créé il y a quelques mois, donc ça fait un moment que moi je faisais ce constat des problèmes et que j'ai entendu beaucoup de gens en parler aussi de ces problèmes-là, du fait qu'on pourrait plus covoiturer. Et du coup, il y a quelques mois, avec notamment la hausse des prix de l'essence, je me suis dit que c'était le bon moment pour lancer le collectif. Donc c'est assez jeune, là pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde, on est une quinzaine dedans. Et on a pour objectif d'essayer d'avoir une cinquantaine de personnes d'ici la rentrée prochaine pour pouvoir relancer une dynamique à la rentrée. Parce que là, pendant les vacances, je pense que ça va un peu s'essouffler parce qu'il n'y aura pas trop de trajets réguliers. Donc voilà, l'idée, ça serait d'essayer de lancer une dynamique avec une cinquantaine de personnes à la rentrée pour pouvoir enfin que ça tourne bien, quoi. Et donc, concrètement, bah, pour
Ça, pour vous expliquer comment ça fonctionne, on a tous les gens qui sont dans le collectif ont accès à un agenda partagé et où du coup on peut, dès qu'on a un trajet, on peut le publier sur l'agenda avec du coup nos coordonnées, un numéro de téléphone. Et du coup, il suffit de consulter l'agenda quand on a besoin de bouger pour voir s'il y a quelqu'un qui a posté un trajet qui peut nous convenir et on appelle la personne en question. Voilà. L'avantage de l'agenda, c'est que ça permet aussi de poster des rendez-vous récurrents. Si quelqu'un va au travail tous les jours à 8 heures, bah, il poste une seule fois et puis ça s'affiche tout le temps et on le voit, quoi. Contrairement à ça se fait souvent dans des collectifs comme ça, dans des groupes Signal ou WhatsApp ou des choses comme ça, où du coup, quand quelqu'un a posté un truc, et ben, on est obligé de relire tout l'historique pour essayer de trouver quelque chose et où c'est pas pratique. Voilà. L'idée, c'est que ça soit plus facile.
On y accède comment à cet agenda ?
Alors du coup, pour y accéder, il faut demander à rejoindre le collectif, donc c'est assez simple. Il faut juste créer un compte sur Framagenda, donc framagenda.org. Donc là, on a décidé de passer par Framagenda parce que c'est un logiciel libre et pas par Google Agenda pour que ce soit un peu plus libre. Et donc, il faut juste créer un compte, c'est assez facile. Et après, il faut envoyer un mail au collectif en précisant son nom, son prénom, dans quel village on est, et puis l'adresse email avec laquelle on a créé son compte Framagenda. Et une fois qu'on a ça, et ben, du coup, moi, je donne accès à la personne à l'agenda partagé. Voilà.
Donc, il est accessible depuis un ordinateur ou un smartphone voilà.
Alors, c'est accessible depuis un ordinateur et après, on peut configurer l'agenda pour l'avoir sur son agenda, dans son appli d'agenda de son smartphone habituel, quoi. Voilà. Et donc, voilà, il faut envoyer un mail à covid61drome@proton.me. Et après, une fois que moi j'ai reçu le mail, je vous intègre dans le collectif et puis vous aurez aussi toutes les ressources qui expliquent comment ça fonctionne en détail. Il y a une vidéo qui explique comment rajouter un rendez-vous, un trajet, quoi. Voilà. Il n'y a pas de site.
Alors, moi, j'ai eu l'info par Panneau Pocket de Bellegarde. Ouais, j'ai vu ça.
Ouais. J'ai amené des affiches aussi où il y a tout qui est expliqué, du coup, et du coup, je peux les...
Alors, crois que la question était sur Framagenda. Est-ce qu'il y a une explication pour la création sur le Framagenda de trajet ?
En fait, pour s'inscrire sur Framagenda, je pense que ça, il y a vraiment pas besoin d'explication parce que c'est juste, on va sur le site, on met une adresse mail, on choisit un mot de passe, c'est très simple. Et après, pour par contre l'utilisation de l'outil, oui, une fois qu'on a rejoint le collectif, je mets à disposition il y a le règlement du collectif et puis il y a l'explication sur comment on ajoute des rendez-vous, comment on consulte. Et il y a une vidéo explicative aussi qui montre tout ça. Voilà.
Je rebondis sur ce que j'ai entendu avant, quand on parlait un petit peu en préparant, Fleur et Thomas. Et tu viens de répéter, Fleur, il faudrait à peu près 50 personnes pour que ce soit pérenne. Mm-hmm. C'est quoi ce constat ? Est-ce qu'il a été constaté sur d'autres expériences de même type ? Tu disais aussi tout à l'heure, 8 trajets par semaine, ça serait bien pour pas que ça s'essouffle.
Alors c'est un constat qui a été fait par l'ADEME, hein, sur des recherches, des expériences au niveau français.
Tu peux rappeler l'ADEME ?
C'est une agence de l'État qui travaille sur les questions de l'écologie. L'acronyme, je vous laisserai aller voir sur Internet. Et donc du coup, moi ce que j'ai simplement, j'ai regardé Bellegarde en Divois, je crois que c'est une centaine d'habitants, Jonchère une trentaine, Poyol, c'est pareil.
Poyol, c'est une centaine aussi.
Une centaine, d'accord, oui, une centaine, et c'est Establé une trentaine, voilà, on l'a eu que 40, enfin voilà, en regardant le nombre d'habitants, on s'aperçoit qu'autre part, dans des territoires similaires, il faut avoir une cinquantaine de personnes sur un groupe de covoiturage et de publier à peu près 8 trajets par semaine pour faire vivre ce groupe. Il y a un deuxième constat, c'est pour le lancement, un petit peu plus difficile, c'est-à-dire d'arriver à créer un ou une référente et un groupe qui s'empare du sujet. Un événement, par exemple la rentrée. Créer un défi covoiturage où là tout le monde, en tout cas le maximum de personnes vont essayer de publier des trajets pour lancer une dynamique. Et voilà, on s'aperçoit qu'il faut à peu près 8 trajets par semaine. Donc 8 trajets, c'est 4 allers-retours. Hein. C'est pour lancer une dynamique et arriver à l'entretenir au départ. Voilà, on s'aperçoit aussi que souvent, si on n'anime pas ce collectif, après il y a une baisse en fait de l'intérêt, de l'implication. Donc, c'est aussi de, à travers le collectif, de relancer de temps en temps, voilà, des animations. Il faut que ce soit simple et structuré. Donc, on entend voilà parfois des difficultés pour s'inscrire, même quand ça nous paraît simple. Parfois, il faut aussi que le collectif puisse proposer un petit temps pour expliquer en physique avec la personne et peut-être l'accompagner sur un ordinateur. Voilà, tout au début, en fait. Il y a une dernière chose, c'est qu'on peut aussi arriver à structurer ce covoiturage en définissant des lieux. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être devant l'épicerie d'un village, à la sortie, des lieux qui soient sécurisés, visibles, où on ait de l'ombre, par exemple, en été. Et on s'aperçoit que plus le covoiturage est facile, qu'il y a moins, peut-être un petit peu moins d'options, mais en tout cas, les gens s'en emparent plus facilement. Voilà.
Ça, Fleur, sur deux questions que vient de soulever Thomas, c'est-à-dire un petit groupe, un petit noyau ou un petit groupe actif ou fort de propositions d'animation du collectif. Il y a déjà des personnes qui t'entourent pour, par exemple, préparer, tu disais, un événement ou la rentrée.
Moi, j'ai déjà quelques personnes qui ont essayé un peu de m'aider un peu là-dedans, mais qui n'ont pas encore vraiment... un rôle de lancement du collectif, hein, vraiment de soutien, quoi. Et du coup, je suis tout à fait ouverte s'il y a des gens qui sont à fond pour venir me rejoindre dans l'animation du collectif. Ça m'intéresse beaucoup.
Et est-ce que l'autre question, c'est est-ce que tu as fait un repérage, comme le disait Thomas à l'instant, d'endroits sur la départementale où ça pourrait être des rendez-vous de covoiturage?
Alors, j'ai pas fait un repérage exhaustif, on va dire, mais du coup, dans l'information que j'envoie aux nouveaux membres du groupe, je donne des exemples, en fait, et j'explique que l'idée, c'est d'essayer de se retrouver le long de la D61, quand on peut, voilà. Et du coup, bah, généralement, au croisement, en fait, ça, à Bellegarde, la logique, c'est de se retrouver plutôt au centre du village, vers l'église. Si on est à Cornillac, bah, c'est au croisement du moulin, là où la route de Cornillac arrive sous la D61, par exemple. Voilà, donc j'ai donné des exemples comme ça, mais c'est vrai que, effectivement, je viens d'apprendre que ça marchait mieux, apparemment, quand on a des lieux définis. Donc, voilà. On pourrait définir une liste de lieux pour chaque village pour ça, oui. Mais en tout cas, je suis tout à fait preneuse d'idées comme ça.
Amélie, est-ce que l'escalabière pourrait se prêter à être un lieu d'escale, d'étape pour attendre un covoiturage?
Alors, pourquoi pas? Après, nous, on n'est pas ouvert très souvent. Donc, on est ouvert que les vendredis soirs et samedis soirs pour l'été. Donc, c'est peut-être pas le lieu idéal. Par contre, juste derrière l'escalabière, on a de quoi se garer. Et puis, on a effectivement un coin d'ombre et un banc juste devant l'église. Donc, ce serait l'endroit idéal, je pense, pour Bellegarde, en tout cas. Mais n'hésitez pas à venir boire un coup si vous avez trop chaud pendant votre attente.
Là, on n'est pas très nombreux, mais Thomas parlait de peut-être créer des événements, être un lieu comme ça où pourrait se créer un événement de lancement ou de rebond de cette proposition dans les mois à venir. Ça, c'est envisageable.
On pourrait éventuellement, effectivement, imaginer un événement autour de ça prochainement, en septembre. Ça me semble être une bonne idée pour essayer de relancer un peu tout ça. À la rentrée, en général, on est plein de bonne volonté. ça pourrait.
Est-ce que vous voulez réagir dans le public par rapport à la proposition Covid-61?
Je trouve que ce serait super intéressant, Fleur, que tu te mobilises sur un vendredi, une soirée consacrée à ça pour apprendre mieux. Enfin, que tu nous guides et qu'on s'inscrive et pour les personnes intéressées. Parce que j'avoue que tu es venue, tu vois, tu m'as expliqué. Après, j'ai laissez tomber l'affaire, parce que quand j'ai ouvert le truc, j'ai dit oh. Je suis pas une fan de l'informatique. Alors
quand on n'a pas trop l'habitude, ça peut faire peur, mais après, en fait, c'est
de base. Ça, oui. Donc, ce serait intéressant.
Merci Claire pour ton intervention. On pourrait totalement imaginer créer un événement rencontre et des discussions autour de ce Covid-61.
Oui, je voulais dire aussi par rapport à ce collectif, en fait, donc nous on habite à La Motte, en fait, je ne connaissais pas du tout, heureusement que je suis là ce matin, parce que je ne connaissais pas du tout ce collectif qui est super, et voir peut-être comment est-ce qu'on pourrait le faire connaître sur toute la ligne de la D61, parce qu'en fait, si nous on ne connaît pas, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne le connaisse pas. Donc peut-être faire un événement aussi du côté de La Motte, parce qu'il y a aussi...
Oui, c'est 400 habitants, La Motte.
Ouais. En tout cas, je suis bien contente de voir que vous avez envie de le faire connaître, parce qu'effectivement, j'ai communiqué sur tous les villages qui vont de Luc à La Motte, à Rémusat. J'ai mis des affiches dans tous les villages et j'ai contacté toutes les mairies pour qu'elles fassent passer l'info aux habitants. Et effectivement, c'est pas facile d'avoir les infos qui sont relayées, notamment par les mairies, parce qu'il y a... Il y a 4 mairies qui m'ont répondu et encore, il a fallu que je les relance. Et les autres, je ne sais pas du tout si elles ont fait passer l'info. Apparemment, à La Motte, l'info n'est pas passée. Voilà, donc maintenant, je me dis que le mieux, ce qui marche le plus, c'est le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le collectif et puis à faire passer l'information pour qu'on arrive... Ouais, ça serait bien qu'à la rentrée, on arrive à atteindre au moins 50 personnes qui sont dans le collectif pour pouvoir lancer ensuite une dynamique et éventuellement... faire un petit événement pour aider à ça. Oui. Mais du coup, j'ai amené des affiches, si vous voulez les en remettre vers chez vous, n'hésitez pas à en prendre pour les mettre.
Alors, oui, effectivement, un des enjeux là, pour ce groupe de covoiturage, c'est de communiquer, mais c'est de recommuniquer. On s'aperçoit qu'on a besoin, sur les sujets de mobilité, de faire évoluer aussi les mentalités et au niveau communication, de communiquer plusieurs fois l'information pour la faire comprendre, pour que les gens s'en saisissent aussi dans leur quotidien, puisqu'il y a toujours, je sais pas moi, les enfants, le travail, les enfants emmenés, plein de choses différentes qui peuvent être, nous sembler prioritaires. Et donc du coup, moi, je vous invite à recommuniquer. On parlait tout à l'heure aussi que peut-être nous, Dromolib, on peut pousser un petit peu et solliciter des interlocuteurs qu'on a pour communiquer autour de ce groupe. Et je vous invite aussi à vraiment être très inclusif, c'est-à-dire pas seulement auprès des habitants, mais aussi de communiquer auprès des professionnels qui sont souvent aussi des habitants. Fleur, si par exemple, tu t'invites, mais de communiquer, je vais faire des courses, tu vas faire des courses pour... ton lieu de travail, et bah aussi de mettre ces trajets-là. Pour les touristes aussi qui sont de passage, par exemple à l'Escalabière, de dire, attends, vous savez, on a un groupe de covoiturage, de communiquer avec tout le monde et vraiment de n'exclure personne. Voilà.
Ça, c'est un enjeu assez crucial pour éviter un essoufflement comme ça des propositions de collectifs d'habitants, d'avoir un relais, plusieurs relais, que ce soit dans le milieu associatif, le milieu économique, le milieu des mairies ou des collectivités locales.
Oui, alors c'est surtout pour le démarrage en fait, puisque une fois qu'on a des habitants motivés, souvent investis, au bout d'un an, on voit un petit peu des dynamiques qui tournent. Mais pour le lancement de solutions, vraiment, c'est vraiment tout l'enjeu. D'ailleurs, moi je salue l'initiative de Fleur, parce qu'on s'était rencontrés... il me semble il y a 8 mois peut-être, où tu m'avais parlé de l'envie de créer ce groupe, et depuis il existe, ça a été lancé, enfin voilà, on a une vraie avancée, et tu es là aujourd'hui en plus pour essayer de le porter, donc vraiment félicitations, et puis voilà, j'espère qu'on va arriver à le développer.
Merci.
Tout à l'heure, on parlait, alors j'entendais bien Nadine qui disait qu'il y a une défection de services publics. Ça, c'est un constat qu'on peut tous avoir dans nos vallées reculées. Continuons sur le positif de la prise en main des habitants. Tu évoquais tout à l'heure, et ça a été évoqué aussi, à l'intérieur des villages, il y a des groupes, enfin il y a un petit peu de la débrouille entre voisins. Donc il existe aussi des groupes sur réseaux sociaux, messagerie partagée pour dire je vais faire les courses, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ça, est-ce qu'on se rend compte que sur la mobilité, ça a un impact aussi, ce genre de petits, de micro-communautés, on va dire, de mobilité?
Ah mais c'est primordial, c'est très important, c'est ce qui fait aussi le lien social entre les habitants dans les villages, le plaisir aussi d'habiter dans certains villages. Après, on en voit les limites et d'où l'intérêt de se rejoindre en collectif et d'un collectif inter-village pour que ces petites initiatives servent plus à plus de personnes et que plus de personnes aussi se rencontrent et que plus de trajets soient proposés, quoi.
Oui, et puis par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je trouve que c'est... On entendait dire que, par exemple, à La Motte, apparemment, il y a des choses qui se font sur Facebook par rapport au village, et c'est vrai que ça, c'est pas... Je trouve que c'est pas très inclusif, parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas avoir de compte Facebook. Et voilà, moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'utiliser que des outils libres pour ce collectif-là.
Ouais. Donc, il y a quand même la barrière informatique. On le sait, malheureusement. Je vais pas dire qu'il y a de l'électronisme, pour reprendre les mots d'un certain... ancien Premier ministre, mais tout le monde n'a pas un smartphone avec le compte réseau social dessus, donc tout le monde n'a pas l'utilisation facile d'ordinateur. Ça, que ce soit pour des personnes âgées ou pas, on voit que c'est une limite assez régulière.
Alors, c'est sûr, c'est une limite. Ce qu'on peut imaginer, mais il faut faire les choses vraiment par étapes, lancer cette dynamique, ce groupe. Et après, on peut imaginer un tableau d'affichage dans les mairies. On peut imaginer une personne référente du groupe qui soit en lien avec les personnes qui ont exprimé des besoins pour s'inscrire, pour proposer un trajet ou demander un trajet, donc certaines personnes référentes. Mais voilà, je pense que ça va venir dans un deuxième temps où il faut vraiment déjà une émulation, arriver à voir du monde. Mais c'est effectivement une réflexion à avoir. Hein. Quand on n'est pas doué avec l'informatique ou qu'on n'a pas d'ordinateur ou que ce n'est pas notre génération, comment avoir accès à ce groupe de covoiturage ? Mais voilà, pour le moment, essayons de réunir des membres, récolter des intéressés, le diffuser auprès... des habitants, des touristes, des professionnels de La Motte jusqu'à Luc, disons, enfin voilà.
Oui, et par rapport à ça, moi j'y avais, oui, c'est un peu réfléchi à cette problématique-là, et voilà, une idée que j'avais, mais qui serait effectivement à mettre dans un deuxième temps, ça serait d'avoir par village plus ou moins un référent qui, une fois de temps en temps, imprime la liste de ce qui a été publié, en fait, et le mettre sur le tableau d'affichage de la mairie, quoi. Oui, toutes les semaines, tous les mois, enfin à voir, mais voilà, qui est un peu une retranscription du tableau informatique qui soit fait aussi en papier une fois de temps en temps pour que les personnes qui n'ont pas accès à l'informatique puissent aussi voir ça. Alors voilà, à réfléchir dans le détail, mais je pense qu'il faut déjà effectivement qu'il y ait une première dynamique avant de pouvoir avoir suffisamment de monde pour que ça puisse tourner, de faire comme ça.
Nadine.
Je reprends un peu ce que j'avais dit au départ et que vous avez repris. Si j'ai parlé des services publics et des manquements de l'État par rapport au transport notamment, ça ne veut pas dire que je ne regarde pas autour. Et quand je suis arrivée ici, j'ai été fort étonnée justement qu'il y ait du stop, qu'il y ait plein de choses qui se passent au niveau des déplacements. Donc je trouve que c'est important que les gens qu'on arrive à mettre en place, qu'on ne soit pas résigné en fait face à des situations de manquement de l'État, je précise bien, et pas des individus forcément. Par contre, moi, la question, moi, j'entends tout ce qui se dit et je me dis, et moi, qu'est-ce que je fais ? Parce que je n'y suis pas là-dedans, parce que je n'y arrive pas, en fait. Parce que quand je prends ma voiture, et c'est, je parle de moi, mais je pense aux autres, parce que je ne suis pas la seule. Quand je prends ma voiture, ben, j'ai plein de trucs à faire et je suis libre, quoi. Voilà, il y a cette espèce de notion de liberté quand on prend son véhicule. On va dire, moi j'en profite, hein, quand j'ai un rendez-vous, quel qu'il soit, je vais faire toutes mes courses et puis je remonte. Et je me sens ficelée, moi, si je rentre dans ton truc, quoi, dans ton association.
Alors, ça, c'est quelque
je
chose.
Je pense que je ne suis pas la seule.
Oui,
Donc je pose ça parce que si on est aussi pas si nombreux ce matin, mais quand même on est quelques-uns, c'est peut-être aussi pour ça.
Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu de la part de pas mal de monde et que je comprends tout à fait. Et du coup, c'est quelque chose auquel ça a été réfléchi. Et pour le collectif, l'idée, c'est que la personne qui poste le trajet enfin, la personne qui vient covoiturer avec quelqu'un qui fait son trajet avec sa propre voiture, elle doit un peu se plier aux horaires de l'autre personne, bon, à moins qu'ils se soient mis d'accord autrement. Mais l'idée, c'est quand même, c'est la personne qui a la voiture qui prime. Et quand on poste un trajet, du coup, on peut indiquer une plage horaire, en fait. De dire, ben, moi, je vais à 10 heures, plus ou moins une heure. Voilà, donc ça veut dire, si vous voulez covoiturer avec moi, ok, mais peut-être que je partirai à 9h, peut-être que je partirai à 11h. Donc je prends des gens pour, en covoiturage qui sont flexibles, quoi. Voilà. Si vous avez besoin de cette flexibilité, vous pouvez l'indiquer quand vous postez le trajet, ce qui permet aux gens qui veulent covoiturer avec vous de voir qu'effectivement, il va falloir qu'ils soient flexibles à ce moment-là.
Et peut-être l'enjeu, c'est de pas covoiturer. Si vous ne covoiturez jamais, c'est peut-être de ne pas covoiturer sur tous vos trajets d'un coup. C'est peut-être d'identifier un ou deux trajets où vous dites là, moi c'est sûr, là je vais à tel endroit et je reviens, je peux proposer mon trajet. C'est aussi peut-être de proposer seulement le retour parce que vous savez que vous devez être à 18h chez vous et donc vous allez partir et être sûr de ce trajet-là. Et en fait, voilà, c'est sur les mobilités, c'est quelque chose qu'on entend sur tous les changements de mobilité. C'est de se dire qu'en fait on peut juste essayer de faire un petit peu plus et pas forcément de passer du tout au rien. Donc ça peut être rassurant aussi pour nous-mêmes, se dire bon bah voilà, moi mon objectif c'est de partager un trajet par semaine, parce qu'avant je n'en partageais zéro, si j'en partageais un c'est peut-être se dire deux, enfin voilà, se mettre des petits objectifs et parfois seulement des allées ou seulement des retours. Si ça trouve preneur, tant mieux, et si ça ne trouve pas preneur, c'est pas grave.
L'intervention de Nadine, moi, elle me ramène à quelque chose qui me fait penser un peu à une particularité française historique, culturelle autour de la mobilité et de l'automobile. On est quand même pas une exception européenne, mais on a une histoire très attachée à cette liberté de pouvoir prendre le volant qui nous a été vendu pendant 3-4 générations. Pour ceux enfin, qui, comme moi, ont grandi avec National 7 de Charles Trenet, il y a quand même toute une imagerie de la liberté de pouvoir circuler qui demande maintenant peut-être des adaptations face à des réalités économiques et écologiques qui n'étaient pas trop des préoccupations de nos grands-pères et de nos grands-mères, et de nouveaux modes de circulation à trouver quand le train n'est pas présent, quand le bus n'est pas présent, y a une petite organisation à trouver. Alors je continue avec Nadine qui disait, moi, tout à l'heure, et peut-être on peut passer à cette autre initiative citoyenne, je ne rechigne jamais à prendre un autostoppeur ou une autostoppeuse. Donc ça c'est une forme de liberté. Je suis en voiture, quelqu'un me tend le pouce et je m'arrête, et si je peux l'aider, je l'aide. Alors si Nadine voulait réagir directement, ou si Thomas tu veux nous parler un petit peu de comment peut être à minima organiser l'autostop. Est-ce qu'il y a des pratiques, des...
Eh ben je vois que Nadine me fait des signes, alors je vais la laisser juste répondre et je vais parler après.
Je vais être un peu violente, mais je m'en cogne, moi, de ce qui a été dit il y a des années. Mm-hmm. J'ai peut-être l'âge que j'ai, mais j'en ai rien à fiche, quoi. Et j'insiste parce que... je suis pas là. C'est une liberté quand on prend sa voiture. Moi, par exemple, alors j'entends, mais je cherche à être convaincue par ton système et par les systèmes de covoiturage. Je suis pas fermée du tout. Je dis pas c'est la liberté, point terminé, on me l'a bien vendu. J'en ai rien à faire de ça. Mais quand même, je dirais pas et, quand je prends mon véhicule, que je pars. Alors avant c'était le mardi matin, des fois c'est le vendredi, ça peut être irrégulier, parce que j'ai un rendez-vous précis à telle heure, je peux y passer la journée à 10, parce que je m'organise, mais à un moment donné, putain, je suis allée au silo ou à Inter, parce que je l'ai fait tous, parce que c'est une question de moyens aussi, je le signale au passage, ben, j'ai envie peut-être d'aller boire un café, c'est cette liberté-là. On n'est jamais libre, on sera libre quand on sera mort, hein, c'est tout. Donc il faut être clair. Mais c'est ça. Et moi, je cherche à, je crois que j'en avais discuté avec toi, Fleur, ou avec quelqu'un d'autre, pour dire, mais comment on fait? Et on m'avait reprécisé, j'attends encore, peut-être que c'est à moi de proposer des reprécisions pour être encore plus... Si on fixe un horaire, effectivement, une journée, et puis c'est à prendre ou à laisser, par exemple, hein, ou de 10h à 16h, voilà, la personne qui est intéressée, ben, ça l'intéressera peut-être, effectivement. Mais sous prétexte d'écologie, je ne veux pas être culpabilisée avec mon véhicule. Il y en a qui le font assez, tels Macron, Le Cornu et compagnie. Et il faut bien situer. Moi, je veux dire, on n'est pas apolitique, hein, d'accord ? Quand on achète la baguette de pain, on la paye. Quand on vient, quand on prend sa voiture, on paye l'essence. Et ça dépend bien d'une mise en place politique des choses. Et ça, je le rappellerai toujours.
En tout cas, je t'invite à déjà commencer par rejoindre le collectif et essayer. Et puis après, ne pas hésiter à faire des retours si tu as des idées d'amélioration. Voilà.
Alors, du coup, effectivement, ce qu'on voit et ce que j'entends, c'est que cette solution peut ne pas me convenir. Donc effectivement, on voit l'intérêt de développer et de mettre en avant plusieurs solutions de mobilité pour qu'elles nous conviennent, qu'elles conviennent à plusieurs personnes et aussi qu'elles nous conviennent à différents moments de notre vie, que ce soit quotidienne, professionnelle ou tout simplement j'ai le temps, j'ai envie de me faire plaisir ou à ce moment-là, j'ai pas du tout de temps, je suis très pressé, j'ai ma voiture, je vais l'utiliser tout seul. Et en fait, c'est une réalité et c'est OK. Hein. Voilà. Mais c'est de se dire, essayons de mettre en place d'autres solutions pour que la mobilité soit encore... Nous, ce qu'on défend chez Dromolib, hein, c'est qu'elle soit plus pratique, plus économique et plus écologique. Voilà. Donc là, on était parti sur le stop. Voilà, une autre solution de mobilité. Ce qu'on se rend compte, encore une fois, c'est d'avoir un intérêt d'avoir des lieux identifiés dans les villages, et aussi la diffusion et la communication de bonnes pratiques en stop sur les attitudes. Donc là, j'ai des petites fiches que je pourrais laisser après, mais avec, par exemple, vraiment l'intérêt d'avoir un petit carton quand on sort de chez soi avec la destination, que la voiture ait le temps de voir ce panneau, de le lire et de s'arrêter un petit peu plus loin dans un endroit qui est plutôt sans virage, qu'on soit habillé d'une manière où on voit le visage. Aussi, tout ça va favoriser, il y a plein de bonnes pratiques en stop qui peuvent favoriser qu'on soit pris et que tout le monde se sente bien. Il y a aussi le fait qu'on peut refuser une voiture qui s'arrête. Bien rappeler ça, si on ne sent pas, on peut dire non, j'ai changé d'avis. Voilà, donc ça, c'est des choses où on peut diffuser dans le lieu. Bah, par exemple, comme ici, hein, vous pouvez, moi, je peux laisser aussi des fiches de bonnes pratiques en stop. On peut les diffuser sur auprès des mairies. Voilà. Souvent, c'est des choses qui marchent. Hein, des retours que j'ai sur le territoire, le stop fonctionne. Hein, même les touristes qui viennent sur le territoire sont assez étonnés de voir qu'on les prend aussi facilement. Voilà.
J'ai une question technique là-dessus. On voit que pour le covoiturage, il y a des aires de covoiturage qui sont signalées de plus en plus. Est-ce qu'il existe des signalisations d'aires de stop, d'autostop ? Est-ce que ça a déjà été expérimenté dans d'autres territoires ? Et est-ce que c'est facile d'accès de mettre un panneau
Alors... Le principe du stop, c'est quand même d'en faire là où on est, hein. Si on veut tout normaliser, on va se casser la gueule. Faut savoir prendre comme les gens sont, quoi, au bord de la route. Si on commence à tout normaliser, mais où on va, quoi?
C'est pas normaliser, voilà. C'est aider un peu aussi, peut-être ceux qui en font pour la première fois, de ça peut les rassurer, d'avoir un panneau, un endroit, de se dire, tiens, à cet endroit-là, c'est bien,
ben
ça
moi,
se fait, quoi.
Moi, j'irais un peu d'humanité, quoi. Un peu d'humanité, on voit quelqu'un au bord de la route, si c'était soi, on aimerait bien être prise, qu'on ait le panneau. On demande, on s'arrête, on demande. Le problème, c'est le virage pour moi.
Alors du coup, il n'y a pas de problème. Pour répondre à la question, oui, il y a des territoires qui ont mis en place des lieux organisés avec des panneaux, avec des pouces par exemple, et des panneaux. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que tant qu'une solution n'est pas animée, poussée, ça a tendance à retomber, à ne pas être très utilisé. Donc voilà, l'idée, c'est pas forcément d'intervenir sur les personnes qui prennent en stop, c'est de transmettre les bonnes pratiques à des gens qui voudraient faire du stop, qui ont un petit peu peur de franchir ce premier pas. Et donc, ces personnes-là peuvent être rassurées avec des conseils, en fait, et ces petits accompagnements, se disant, bah voilà, je me lance à faire du stop, parce que ça peut faire peur.
Concrètement, ici, sur cette départementale, le stop fonctionne comme sur la départementale 93 du Val-de-Drôme ou pas? Je vous pose la question, parce que
moi,
j'en ai jamais fait ici.
Temps, ça fonctionne, oui.
Faut pas être pressé, mais ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne. Il y a déjà des gens qui se sont arrêtés justement devant le bar pour faire du stop, etc. Et oui, oui, ça fonctionne bien. Oui.
D'horaire, j'entends parler d'horaire aussi.
Oui, c'est vrai que si on fait du stop à Bellegarde à midi, en général, il n'y a pas trop de passages. Mmh. Voilà, il y a quand même, comme dit Nadine, les horaires où la route est plus fréquentée qu'à d'autres moments. Mais, voilà. Mais justement, ça, c'est intéressant de mettre en place ce genre de conseil parce que moi, la première, je n'ai jamais fait de stop parce que je n'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, mais je serais plutôt du genre à hésiter à faire du stop. Mais de savoir que oui, je peux refuser une voiture, moi, ça me paraît logique, mais ça ne paraît pas logique à tout le monde de ne pas se mettre dans un virage. Moi, je trouve ça intéressant ouais, qu'il y ait ce genre de petite liste qui existe.
Donc des fiches que tu pourrais laisser dans les lieux qui peuvent être reliés pour donner oui. Juste de bonnes des infos de bonnes pratiques quoi.
Elles sont sur le site de Dromolib, mais effectivement je suis venu avec des fiches et je peux aussi en rediffuser par email, il y a pas de souci. Ouais.
On parlait tout à l'heure a été évoqué aussi l'autopartage. Donc ça c'est une troisième initiative qui peut être une initiative de conducteur particulier, mais qui peut être aussi instaurée par des collectifs ou par des organisations, des organismes.
Oui. Alors ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est qu'il y a justement autant de modèles que de groupes d'autopartage. Nous, du coup, chez Dromolib, on a une spécialiste, Marie Michal, qui accompagne des groupes d'autopartage entre particuliers, avec certaines réussites, puisque la communauté de communes du Crétois et Pays de Saillant a repris une initiative de Dromolib pour du coup, ses habitants. Et on a des voitures en ce moment qui sont en test, notamment une à l'EVS de Luc-en-Divois. Pour répondre à vos questions aussi, tout à l'heure, vous aviez une question sur ce qui existe sur le Diois. Il en existe aussi au Val-de-Quin. Il en existe aussi une sur Die. Donc j'ai mangé le nom de qui L'avant-poste. Merci Mathieu. Donc en fait, l'autopartage existe quand il y a deux personnes qui souhaitent partager une voiture. Donc il faut un propriétaire et un locataire. On définit les règles dans ce groupe, donc tout est clarifié, qu'est-ce qui se passe avec l'assurance, combien on paye de centimes au kilomètre, donc souvent on met des règles, voilà, et on a la possibilité après de réserver la voiture, donc en fonction des groupes, ça peut être organisé sur internet, ça peut être aussi juste un coup de fil quand on est peu nombreux dans ce groupe d'habitants, en disant est-ce que la voiture est disponible samedi tant. Et ensuite, on règle un forfait au kilomètre. Donc, je sais que souvent, c'est entre 27 et 38 centimes, je crois, du kilomètre, qui correspond, du coup, aux frais d'entretien, d'amortissement de la voiture, aux frais d'assurance. Donc, la personne qui va prendre le volant n'aura pas besoin de se soucier de tous ces points. Et l'idée, en fait, c'est de vraiment partager une voiture. La personne qui met sa voiture à disposition n'est pas là dans un objectif lucratif de se faire de l'argent, mais plutôt que d'autres personnes remboursent entre guillemets les frais de la voiture. Voilà, donc il y a des collectifs qui existent, hein. Je sais qu'à Alex il y a un collectif d'habitants qui s'en entend pareil, il y a d'autres villages où il y a un lieu référent où la clé est cachée, enfin elle n'est pas cachée, elle est donnée au cafetier parce que le cafetier est ouvert quasiment à H24 façon de parler, donc il a la clé à disposition, mais parfois la clé est cachée sous un muret à tel endroit dans le village, parfois il faut aller sonner chez tel habitant de retraite, et voilà, il y a énormément de dispositifs qui existent en France. Voilà, je ne sais pas si la question, vous avez déjà réfléchi. Il y a parfois des collectifs qui achètent une voiture ou à qui on donne une voiture aussi, une vieille voiture qui ne sert pas.
La réflexion que je me faisais à l'instant, c'est, ok, si on se partage une voiture, il y a encore cette question de l'agenda.
de partager aussi un agenda pour dire, parce que si on va chercher la clé ou la voiture et qu'elle n'est pas là, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Alors, donc ça, il y a plusieurs types de fonctionnement aussi sur...
Alors c'est encore une solution qui nous demande de ne pas être sur la dernière minute. Effectivement, en fait, c'est en fonction du nombre de personnes et du nombre de voitures. Effectivement, il peut y avoir une tension. Je n'ai pas la réalité des chiffres, mais encore une fois, voilà, nous, on a quelqu'un qui travaille sur l'autopartage chez Dromolib et qui peut renseigner les habitants. Vraiment, si vous avez des questions, je pourrais donner le contact après. Mais effectivement, il y a une limite au nombre de voitures par rapport au nombre d'habitants qui la partagent, pour que ce soit fluide pour tout le monde. Mais à chaque groupe aussi, de trouver son fonctionnement, vraiment, il y a beaucoup de choses d'imaginables.
Est-ce que vous avez des réactions, des expériences vécues d'autopartage à...
Oui, donc ma question aussi, c'était, est-ce qu'il y a des communes dans la région ou dans la Drôme qui achètent des véhicules et qui les mettent en autopartage à leurs habitants ?
Alors des communes, c'est la communauté de communes du Crétois et Pays de Saillant qui a fait ça. Donc il y a une voiture près de la gare de Cré et une près à Oust. Voilà, des communes, alors comme ça j'en ai pas idée, ça veut pas dire que ça existe pas, puisque en fait moi c'est pas mon domaine d'intervention, vraiment si ça vous intéresse je pourrais vous donner un contact un peu plus particulier, parce que votre idée ce serait de remonter ce besoin à la commune, c'est ça, enfin je sais pas.
Oui, pourquoi pas. Puis après, ça pourrait être un collectif communal, enfin, entre plusieurs communes, d'avoir un... Parce que bon, c'est vrai qu'un véhicule, ça coûte quand même assez cher. Oui. Donc, alors, voilà, juste pour savoir déjà.
Justement, si là, il y a un groupe qui se monte, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on partage, donc, du côté de Nyons, où il y a une technicienne de la communauté de communes, encore des habitants, et une salariée de Dromolib. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous mettre en lien après... Et vraiment sur l'objectif peut-être juste de réfléchir au sujet, d'avoir un petit peu plus d'informations de comment vous pourriez réfléchir et faire mûrir vos réflexions autour de ce sujet. Parce qu'effectivement, voilà, c'est une des solutions qui peut venir compléter le panel. Et là, c'est de se dire qu'en plus des autres solutions, je peux avoir une voiture à disposition pour mes déplacements.
Là, on a parlé de trois dynamiques les plus connues autour de l'automobile, donc le covoiturage, le stop, l'autopartage. Est-ce qu'il y a d'autres expériences qui existent, que ce soit avec les voitures ou avec d'autres véhicules, et qui peuvent être adaptées à la topographie de nos villages de moyenne montagne ici ?
Alors, encore une fois, même on parle un petit peu du même sujet, mais il y a des navettes de covoiturage solidaire qui peuvent être soutenues par un EVS, par exemple, dans le but d'emmener des personnes qui ont besoin d'aller à des rendez-vous médicaux. Donc ça, souvent, c'est des bénévoles qui se proposent de se mettre à disposition. Ils ont du temps libre. Hein. Ils disent « moi, je suis disponible, par exemple, le lundi et le jeudi ». Et des personnes qui n'ont pas de véhicule et qui ont besoin d'aller à des rendez-vous médicaux peuvent solliciter le covoiturage solidaire. Ça peut être intéressant. Après, effectivement, sur des territoires un petit peu plus éloignés des axes, c'est vraiment pour moi les solutions dont on a parlé qui vont être primordiales, quoi.
Comment on peut se faire soutenir par les collectivités ou par d'autres partenaires, et vers quels partenaires se tourner pour que ça puisse être pérennisé, que ça ne tienne pas que à la bonne volonté et au bénévolat d'une personne comme Fleur.
Alors, ce qui est sûr, c'est que la dynamique des habitants est très importante. Voilà. Donc, pour soutenir les collectifs d'habitants, là, ici, dans l'Audiwa, il y a l'EVS qui s'est porté structure quand même référente sur la mobilité. Vous pouvez aussi solliciter Dromolib. Nous, on a des projets. Hein. Moi, je travaille sur un projet donc, qui s'appelle TIMS, Territoire Inclusion, Mobilité et Sobriété, ce qui me permet aussi d'être là, en plus d'une lettre de mission de la communauté de communes du Diwa, qui finance des actions, hein, clairement, sur la mobilité. Donc voilà, vous pouvez aussi interpeller vos nouveaux élus, puisqu'il y a des réflexions en cours, il y a une nouvelle dynamique qui va être mise en place.
Oui, je rappelle aussi que comme il y a eu des élections municipales il y a peu de temps, vont se recréer aussi des commissions intercommunales au niveau des communautés de communes sur la mobilité. Alors voilà, le 3 juillet au Plantier à Lucandiois, les élus se retrouvent pour voir dans quelles commissions ils veulent être actifs et qu'ils peuvent être interpellés dès la rentrée en septembre sur ces questions-là.
Oui, mais les élus sont souvent conscients que c'est un sujet. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à remonter les sujets, vos envies et instaurer dès le début de mandat, voilà, poser cette question de voilà, remonter vos problématiques hein, dont vous avez parlé tout à l'heure.
Donc pour rappel, Thomas, tu viens faire une permanence donc au 101.7, au 50 rue de la Piscine à Lucandiois. À l'espace de vie sociale supporté par la radio. C'est tous les deuxièmes jeudis du mois, c'est ça ?
Voilà, en fait, j'ai une permanence tous les deuxièmes jeudis du mois, l'après-midi à Lucandiois, le matin, je suis à Die. Et on a d'autres programmes ou d'autres animations qui nous amènent aussi dans le Diois pour d'autres événements. Ce qui est intéressant de ces permanences, c'est aussi un temps de travail qui est identifié où je peux rappeler, par exemple, si vous m'avez appelé ou contacté à un autre moment. Pas de souci, c'est un temps de travail qui est dédié et où je peux vous rappeler, où on peut même se voir pour évoquer divers sujets sur la mobilité. Quoi.
Et de la même manière, si on appelle pendant cette permanence à l'espace de vie sociale, on pourra tomber sur toi.
Pas de problème.
Tu en parlais tout à l'heure et j'en parle parce que c'est une initiative de ma collègue Sandrine. Elle propose une à deux fois par an des trajets en minibus pour aller faire des courses à la matériothèque, à la recyclerie, mais pas que, sur Die. Et elle se propose de venir chercher les gens qui s'inscrivent à ces journées de courses. Est-ce que vous voyez d'autres expériences ou d'autres choses, Mathieu ?
Mathieu, j'habite à Montmorandiois. Ça m'intéresse particulièrement parce que je travaille au théâtre de Die, mais à l'échelle du village, j'ai un coup poisable sur les sorties culturelles, du type je vais au cinéma, etc. Donc c'est encore un endroit de travail qui est plus aléatoire, mais qui commence à trouver une place et on se rend compte que, en tout cas moi, dans ma pratique, je me rends compte que ça existe à l'échelle de plusieurs communes. C'est souvent groupe Signal, groupe WhatsApp. Des fois, c'est un lieu d'intégration parce que moi, quand je suis arrivé, on m'a pas mis dans le groupe WhatsApp et il a fallu du temps pour que j'y sois. Mais en tout cas, ça dit aussi que sur les enjeux culturels, qui sont des enjeux de déplacement autres, parfois plus réguliers, parfois plus irréguliers, mais qui permettent aussi de mutualiser des choses. Hein, parce que, comme vous, je me suis retrouvé au cinéma à Die, où on se retrouvait à trois voitures de Montmort pour une même séance, et c'était un peu dommage. Mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on a aussi sur ces enjeux-là. Et vous parliez tout à l'heure de Sandrine avec les déplacements. L'an dernier, elle avait mis en place un déplacement pour venir au théâtre à une fois, parce que ça pose aussi, dans l'accès aux droits, pour le coup culturel, une vraie problématique en fait, sur ces déplacements-là, et que c'est aussi un endroit à travailler.
Voilà. Je sais que sur les villages de Chabrian et de Montélégé, les groupes de covoiturage ont d'abord été montés pour faire un groupe de covoiturage au cinéma. Voilà. Alors après, ils l'ont élargi sur Montélégé, mais l'objectif premier était on a envie de sortir, on a envie de faire une sortie culturelle voilà, les mêmes constats. Donc ça peut être un point de départ aussi.
Oui, parce qu'on a parlé beaucoup de pratiques, mais on n'a pas parlé, on n'a pas fait la liste des motivations ou des motifs. Parce qu'on se déplace, pourquoi on se déplace, on disait pour aller faire des courses et en profiter, Nadine disait profiter aussi pour boire un café, il y a aussi la parentalité qui nous fait nous déplacer, il y a la culture, la santé. Est-ce qu'il y a d'autres motivation, Max, qui vient de nous rejoindre.
Ouais, alors, Max, de l'Escale. J'en profite pour rebondir sur ces sujets. J'attendais un petit peu la fin parce que c'était super intéressant. Donc, je vais relancer un sujet, mais je vous invite à ne pas y répondre. Sinon, on en a pour l'après-midi. Et c'était plus une réflexion qu'on pourrait avoir même plus tard, ou autour du repas, ou même vous, entre vous en famille. Sur cette mobilité, justement, donc les enjeux. La mobilité, on a parlé de voilà, on a besoin de la voiture, on a besoin d'aller faire les courses, etc. Et on n'a pas parlé de la mobilité, en fait, c'est un besoin humain. C'est-à-dire que d'aller marcher, c'est de la mobilité. Il n'y a pas forcément de but en soi. Il n'y a pas « je dois aller acheter quelque chose ». Et en fait, on n'a pas pensé à la mobilité autrement. Et pourquoi pas, dans ce sujet de mobilité, d'apporter les mobilités douces. On n'a pas parlé des mobilités douces. Et c'est tout bête, mais de prendre son vélo, d'aller faire une balade, ça peut être ensemble, parce qu'on est dans un thème social, d'aller faire une balade à vélo ensemble, une randonnée ensemble, d'aller d'un point A à un point B sans avoir rien acheté et juste se faire plaisir. Je pense que c'est aussi un sujet qu'on pourrait traiter, mais ça demanderait encore des heures et des heures. Donc je vous invite juste à y réfléchir comme ça.
Merci de nous sortir de l'utilité. merci à tous, à toutes. Si vous avez encore une parole à nous partager, ou sinon un mot de conclusion à nos intervenants.
Oui, moi je remercie tout le monde pour ce temps, pour ces échanges. Ce que je note, c'est de partager ces fiches conseils sur le stop, d'aider à structurer, peut-être de contacter Fleur pour voir où elle a besoin en termes de communication notamment. Et puis sur l'autopartage, de transmettre les contacts, pour les gens intéressés, le contact de Marilyn. Voilà.
Moi, ce que je retiens, c'est que il y a quand même beaucoup de solutions qui existent. Je voulais te remercier en tout cas de ton intervention parce que c'était très complet. On a appris beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on a besoin ça demande de l'organisation, tout ça, mais que c'est pas impossible et que on peut chacune trouver une option qui peut nous convenir. Facilement. Et donc on veut bien aussi récupérer effectivement toute cette documentation, continuer à relayer un petit peu l'information et pourquoi pas être un lieu d'accueil pour un prochain événement sur le sujet. Voilà.
Merci beaucoup l'Escalabière de nous avoir reçus. Merci encore d'être venu, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu de l'enregistrement. Et puis, un prochain Café Complice sur un autre thème, ou peut-être celui-là développé autrement.
Pourquoi pas, avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Elle s'emmerde les places Saint-Michel avec des cons. Elle descend les places de l'horloge en Avignon. S'emmerdera avec des vieux chlopes de vin de Saint-Berge qui reviennent des Indes, du Maroc et qui se gobergent. Assis sur des sacs de couchage, plutôt cradoc, sous leur pavé c'est peut-être la plage. Mais elle est moche, elle était un petit peu cambreuse, un petit peu autostoppeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. J'ai pris en stop à la porte devant ma sphère de juin. Et monté dans ma Ford Mustang avec son chien. Un Doberman complètement barge qui avait très faim. Qui a mis des poils et puis de la baffe dans mes coussins. Elle a retiré ses charentaises, bonjour l'odeur, pour roupiller super à l'aise. Pendant 3 heures, elle était un petit peu grandeuse, un petit peu autostoppeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. En se réveillant, elle avait la frite, elle m'a parlé d'un pote à elle qui est journaliste à VSD, qui écrit parfois dans Rock'n'Folk sous un faux nom, puis qui serait pédé comme un phoque mais loin d'être con. Julie Boucle, là tu m'emmerdes avec tes salades, puis tu m'enfumes avec ton herbe. Ça me rend malade, elle était un petit peu cambreuse, un petit peu autostoppeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. On s'est arrêté pour bouffer après Moulin, et Jacques Borel nous a chanté son petit refrain. Le plat pourri qui est le sien, j'ai pas touché. Tiens c'est pas dur, même le clébard a tout gerbé. Ma stoppe s'est rempli le tiroir, sans rien moufler, elle était raide comme par hasard. J'ai tout casqué, elle était un petit peu cambreuse, un petit peu autostoppeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. Quand je lui ai proposé la botte sans trop y croire, elle m'a dit cause toujours mon pote est qu'un ringard. Alors pour les temps d'atmosphère très glauque, très punk, je mets une cassette de Star Shooter dans mon blowpunk. Je préfère le rock'n'roll, c'est plus l'éclat que les gerbés de ma bagnole. À grand coup de lac, elle était un petit peu cambreuse, un petit peu autostoppeuse. J'aurais préféré vicieuse, voire allumeuse. Elle s'est retrouvée sur le macadam avec ses gamelles. Son sac à dos, son Doberman bien fait pour elle. Terminé pour moi les concos, j'ai eu ma dose. Me parlez plus d'autres stoppeux, ça me rend morose. Je veux plus personne dans ma bagnole, je suis mieux tout seul, je conduis d'une main, l'autre je picole. Je me fends la gueule à l'été, un petit peu campose, un petit peu autostoppeuse, j'aurais préféré vicieuse. Voir allumeuse à l'été, un petit peu campose, un petit peu autostoppeuse, j'aurais préféré vicieuse. Voir allumeuse à l'été, un petit peu campose, un petit peu crâneuse, un petit peu visqueuse, un petit peu pisseuse, un petit peu scabreuse, un petit peu moche, j'aurais préféré vicieuse. Voir allumeuse, fais gaffe de pas déclencher l'autostoppeuse.